France Culture.
Mais avant, c'est le journal de la rédaction avec vous, Mathilde Romagnon.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le Pakistan déclare aujourd'hui une guerre ouverte à l'Afghanistan et surtout aux autorités talibanes qui dirigent le pays. L'armée pakistanaise bombarde Kaboul. Explication à suivre. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fait des plaisanteries sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein et l'ensemble de la classe politique l'accuse d'antisémitisme. De quoi détourner l'attention sur l'implication de la jeune garde dans la mort de Quentin Durand. La toxine céréulide, détectée pour la première fois chez un bébé hospitalisé en France après des analyses liées au scandale sanitaire des laits infantiles. Analyse réalisée en Belgique et nous serons en direct de Bruxelles avec notre correspondant. Et puis les Pokémon sont nés il y a 30 ans, mais Pikachu, Salamèche ou Bulbizarre ne sont pas seulement mignons. Ils rapportent sur un marché en plein essor, celui des fans adultes de la franchise. Pour en parler, notre invité est Quentin Gervasoni, auteur d'une thèse sur le sujet. Le Pakistan déclare la guerre aux autorités talibanes et bombarde Kaboul, la capitale afghane, depuis ce matin. Une guerre ouverte, selon les termes du gouvernement pakistanais, lancée en représailles après une offensive afghane à la frontière pakistanaise. Islamabad accuse les autorités afghanes de laisser des groupes armés utiliser son sol pour lancer des attaques sur le territoire pakistanais. Valérie Krova.
Le plus connu de ces groupes, c'est celui des talibans pakistanais. Ils se sont considérablement renforcés depuis que leurs cousins afghans ont pris le contrôle de Kaboul en 2021. Dès leur arrivée au pouvoir, ils avaient d'ailleurs libéré tous les talibans pakistanais emprisonnés par le gouvernement précédent. Connu sous le nom de TTP, le mouvement des talibans pakistanais est devenu une force militaire. Il s'entraîne dans des camps près de la frontière afghano-pakistanaise. Le Pakistan accuse les talibans afghans d'accueillir des terroristes chargés de commettre des attentats sur son territoire, ce que Kaboul dément. Pour désamorcer le conflit, plusieurs tentatives de négociation ont eu lieu, dont une en octobre dernier, après une médiation du Qatar et de la Turquie, mais la trêve a rapidement tourné court. Cette fois, le Pakistan a décidé de frapper des installations du gouvernement taliban. C'est le régime lui-même qui est visé. Islamabad signale ainsi sa volonté de punir les talibans afghans pour leur soutien aux talibans pakistanais.
Valérie Krova, rédaction internationale de Radio France. Une peine très lourde, 20 ans de prison a été requise en appel contre les deux auteurs de la campagne de haine en ligne visant Samuel Paty. Brahim Chnina, père d'une élève de l'enseignant, et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui sont rejugés depuis janvier par la cour d'assises spéciale de Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été tué le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines par un islamiste radical pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en cours. Le verdict, lui, est attendu lundi soir et nous y reviendrons en détail dans le journal de 18h.
Jean-Luc Mélenchon est de nouveau accusé d'antisémitisme.
Lors d'un meeting hier soir à Lyon, le leader de la France insoumise a ironisé sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein, ce financier et pédocriminel américain. Depuis hier soir, les réactions pleuvent. Dernière en date, celle du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui dénonce des propos abjects. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Mathilde.
Chef du service politique de France Culture. Stéphane, tous les responsables politiques fustigent les propos de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, ils sont nombreux ce matin à dénoncer le caractère antisémite des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon hier soir.
Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire.
Outre Laurent Nunez, ses propos sont aussi condamnés par Aurore Berger, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Bernard Cazeneuve ou encore l'écologiste Marine Tondelier. Ce que fait là Jean-Luc Mélenchon est vraisemblablement une mise en œuvre de ce qu'on appelle en politique le théorème de Charles Pasqua. Quand vous êtes emmerdé par une affaire, aurait dit Pasqua selon des propos rapportés, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. Pour le dire plus simplement, il s'agit de détourner l'attention et les réprobations, et c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon pour que les médias parlent d'autre chose que de l'affaire de Ranque. Les accusations à l'encontre des insoumis sont ainsi déportées sur l'antisémitisme, une accusation qui n'est pas nouvelle et dont le chef de file de la France insoumise estime vraisemblablement qu'elle est moins préjudiciable politiquement que celle qui le lie à un groupe ultra-violent. Par ailleurs, le but recherché est peut-être aussi une inversion des rôles qui fait passer les insoumis du camp des bourreaux dans dans l'affaire de Rank à celui des victimes accusées d'être antisémites, ce dont se défend encore une fois ce matin Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci prend tout de même un risque en poussant un peu plus encore dans la radicalisation et la marginalisation politique. Ce risque, c'est que son mouvement apparaisse désormais comme le nouveau diable de la République, en lieu et place du Rassemblement national qui occupait cette position jusqu'ici.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Aujourd'hui, Bill Clinton doit être auditionné devant une commission d'enquête parlementaire. L'ancien président américain devra s'expliquer sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Hier, son épouse Hillary Clinton a assuré devant cette même commission qu'il ne savait rien des agissements du financier et pédocriminel.
La céréulide identifiée pour la première fois chez un bébé en France.
Cette toxine est au cœur, Marie, du scandale sanitaire des laits infantiles. Selon la cellule investigation de Radio France, ce bébé a été hospitalisé début février à Montpellier. Après analyse, ses selles présentaient une concentration de céréulide 30 fois supérieure au seuil de danger. Malgré tout, le ministère de la Santé affirme ce matin qu'il est toujours trop tôt pour faire le lien entre la présence de la toxine et l'intoxication de l'enfant. Nestlé, Danone et Lactalis ont lancé des campagnes de rappel de leurs laits infantiles il y a 2 mois. En France, 3 décès et 10 d'hospitalisations en lien avec la consommation de ces produits ont été recensés. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Bruxelles. Fabien, ces analyses, elles ont été faites dans un laboratoire belge que vous avez pu joindre ce matin et qui ne chôme pas depuis le début de l'année.
Effectivement, les demandes affluent de Belgique et de toute l'Europe dans ce laboratoire bruxellois habitué aux situations de crise. Il s'appelle Scienceano. C'est lui qui est systématiquement consulté par les autorités sanitaires et le gouvernement belgique dès que surgit une situation de crise sanitaire. Le responsable de son unité toxine, Julien Masquelier, a accepté de prendre quelques minutes ce matin pour nous parler de son travail malgré un agenda très chargé en ce moment.
Le nombre de laboratoires qui réalisent ce genre d'analyse est assez limité en Belgique et en Europe, et donc on reçoit un grand nombre d'analyses d'échantillons pour le moment, en effet. Depuis le début de l'année, on a plusieurs centaines d'échantillons sur quelques semaines, alors que d'habitude, sur un an, oui, on doit faire peut-être une cinquantaine d'échantillons. On a réorganisé les différentes activités au sein de notre unité, donc on a les 3/4 de l'unité qui sont maintenant à 100% dédiés à ces analyses-là, pour pouvoir répondre aux demandes qui sont en expansion depuis début janvier.
Ce nombre important de demandes s'explique par le fait que Scienceano a su développer ces dernières années une double expertise en matière de toxines comme la céréulide, que ce laboratoire sait détecter à la fois dans des aliments et aussi chez des patients humains, dans leurs urines ou leurs matières fécales, ce qui permet normalement d'établir un lien formel entre la consommation d'un produit et les symptômes qui en résultent.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles pour France Culture. Rappelons que 4 enquêtes pénales sont en cours en France après la mort de nourrissons. Des enseignantes de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne décident de faire de la rétention des notes des examens de partiel. Ils s'opposent à la hausse des frais d'inscription de certains étudiants étrangers, multipliés par 16 en moyenne ces frais. La présidence de l'université évoque un besoin urgent de trouver des financements. Bonjour Estelle Camerère.
Bonjour.
Un argumentaire que contestent les enseignants-chercheurs, Estelle.
Qui craignent de voir certains étudiants partir l'année prochaine, faute de moyens. Si l'université publique est en mauvais état, la solution n'est pas de s'attaquer aux plus fragiles. Ici, les étudiants étrangers, explique Florence Brisset-Foucault, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Qui doivent en plus faire face à un contexte où on a en plus supprimé les aides au logement, les APL, donc les étudiants étrangers qui vont se retrouver l'année prochaine dans des situations qui sont pour elles et eux extrêmement difficile. Et donc nous, en tant qu'enseignants, on se retrouve face à un public qui est en souffrance et nous, on est complètement désarmés.
Au lieu de 278 euros pour une année de licence, les étudiants étrangers extra-communautaires devront payer près de 3000 euros de frais d'inscription, 4000 euros pour une année de master. La rétention de notes n'est pas une décision prise à la légère, mais elle est la seule solution pour se faire entendre, selon la chercheuse.
Pour nous, cette question des frais d'inscription différenciés, c'est une ligne rouge qui a été franchie. C'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce qui fait le cœur de notre vocation, le cœur de notre métier, c'est-à-dire d'enseigner à des étudiants de manière complètement indifférenciée, quelles que soient leurs origines culturelles et leurs origines sociales.
Du côté de l'université, la présidence a pour l'instant annoncé que la hausse des frais ne concernerait pas les étudiants qui sont déjà en cursus à Paris 1.
Merci Estelle Camerère.
Netflix renonce à racheter Warner Bros. Discovery.
Un coup de théâtre hier soir à Hollywood, après 5 mois de rebond, rebondissements et de négociations pour racheter Warner Bros. Discovery, la plateforme de streaming Netflix refuse de relever son offre d'achat après la dernière surenchère de son concurrent Paramount. C'est donc lui qui rachète l'intégralité du groupe pour 11 milliards de dollars. Et au sein de Warner Bros. Discovery, il y a la chaîne américaine de télévision CNN, chaîne d'information plutôt critique envers l'administration Trump. Mais le ton va devoir changer car Paramount est plus proche du président américain Laurent Kramer.
L'annonce est tombée en direct, comme toutes les autres, sur CNN. Mais elle bouscule le présentateur vedette, contraint d'annoncer que sa propre chaîne, aujourd'hui très critique envers l'administration Trump, va basculer chez un nouveau propriétaire, désormais au plus proche de Donald Trump. Car la famille Ellison, qui remporte donc la mise, entend visiblement transformer la chaîne d'information, la rendre beaucoup moins progressiste, comme elle l'a déjà fait avec la chaîne CBS, devenue conservatrice, une fois passée sous son giron. Netflix négociait pourtant depuis des mois pour acheter CNN au sein même du groupe Warner Bros. Discovery. Mais Donald Trump a multiplié les attaques envers la plateforme de streaming, la jugeant trop proche des démocrates et soulignant que ce rachat par Netflix ne serait pas forcément validé non plus par les autorités de la concurrence. Quelques heures après un dernier rendez-vous jeudi après-midi avec Donald Trump, le PDG de Netflix a fini par jeter l'éponge, renonçant à toute surenchère face à la famille Ellison, qui remporte donc le deal et dispose aujourd'hui de toutes les faveurs de Donald Trump.
Laurent Kramer aux États-Unis pour France Culture. C'est un vol moins spectaculaire que celui du Louvre, mais pas moins important, celui de dizaines de pièces de porcelaine dérobées au palais de l'Élysée entre 2023 et 2025 par un ancien argentier du président de la République, un maître d'hôtel qui assure l'entretien de l'argenterie de la vaisselle pour les dîners entre chefs d'État. Dans cette vaisselle, il y a par exemple des assiettes à 5000 euros pièce, principalement issues de la manufacture de Sèvres. Le préjudice est estimé à 377 000 euros. Trois personnes étaient jugées hier au tribunal correctionnel de Paris. Cet ex-argentier, son conjoint et un collectionneur d'art de la table. Ils ont comparu d'un air penaud à la barre, Justine Leblon.
C'est la tête cachée sous son manteau que l'argentier arrive à la salle d'audience. À la barre, il l'admet de suite. Oui, pendant 3 ans, il vole régulièrement des assiettes, des verres, des cendriers de l'Élysée. Une centaine de pièces de porcelaine pour son buffet en tant que grand amateur d'art de la table, comme il se décrit. Du moins au début, car après viennent les soucis financiers dans son couple. Alors le conjoint, antiquaire, trouve un passionné de porcelaine en ligne, un agent d'accueil au Louvre, la petite trentaine, à qui il vend des cartons d'objets. Ça dure 2 ans et ça rapporte 15 000 euros en tout. Le passionné n'a pas de soupçon des modèles qu'on peut voir aux enchères d'après lui. Un collectionneur de votre niveau ne pouvait pas ignorer que ça provenait d'un vol, lui répond la procureure. Pour les trois prévenus qui décrivent tous une vie dévastée, jetée en pâture par la médiatisation de l'affaire, le parquet a requis entre 4 et 8 mois de prison ferme sous bracelet électronique.
Et le jugement sera rendu le 16 avril prochain. L'Union européenne va appliquer l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur de façon provisoire. Annonce faite aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une décision que la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, regrette. Cet accord est vivement critiqué par la France et par ses agriculteurs qui réclament son retrait. Ce que l'on entend, Marie, c'est la musique d'ouverture du premier jeu vidéo Pokémon sorti sur la Game Boy de Nintendo en 1996 et que les auditeurs qui ont grandi dans les années 90 et 2000 ont forcément reconnu. Pokémon a 30 ans et oui, c'est une franchise qui rapporte toujours avec ses versions du jeu vidéo nombreuses, son dessin animé, ses produits dérivés, ses cartes à jouer dont certains exemplaires se vendent à des prix exorbitants. Bonjour Quentin Gervasoni.
Bonjour.
Vous êtes auteur d'une thèse intitulée « De la Pokémania au Pokémaniaque, la captation des fans adultes de Pokémon entre stratégie des industries culturelles et intermédiation participative ». C'est donc au marché adressé aux adultes dont on va parler avec vous. Comment expliquez-vous que Pokémon demeure une référence culturelle d'actualité 30 ans après la sortie du tout premier jeu ?
C'est une question un peu compliquée, mais je pense que notamment ce qu'ils ont réussi à faire, c'est effectivement de à la fois maintenir une sorte de base de consommateurs un peu fidèles et en même temps surtout d'avoir un rythme de publication de produits, etc., et de commercialisation de produits qui leur a permis à chaque fois de rester en fait présent à travers les cohortes et les générations d'enfants.
Cette franchise, est-ce qu'elle a été conçue dès l'origine pour durer autant de temps ?
Alors je pense pas qu'ils avaient prévu de durer autant de temps, mais c'est sûr qu'ils avaient prévu quand même de durer, parce que même plusieurs années avant la commercialisation des premiers jeux, ils avaient déjà commencé à déposer des brevets, etc. Donc ils n'avaient pas prévu que ce soit quelque chose qui serait éphémère non plus.
On parlait des jeux vidéo, bien sûr, mais aussi des cartes à collectionner, des films, de la série animée, de tous les produits dérivés du parc à thème. Est-ce que c'est par la multiplication de ces supports de consommation que Pokémon parvient à atteindre différents publics, dont les adultes ?
Alors, je pense que, plus même que la multiplication, c'est surtout le fait qu'ils ont trouvé, je pense, une forme de synergie entre les différents supports, parce que... Il y avait donc les jeux vidéo qui déjà avaient, c'était une période où les jeux vidéo fonctionnaient en tout cas très bien au Japon. L'animé qui permettait de créer une forme de narration en plus, les cartes qui permettaient de faire circuler la franchise dans les cours de récréation et de créer un sentiment collectif et en faire une pratique collective. Et c'est plutôt voilà le fait que chaque support en fait apportait quelque chose à la franchise qui a surtout permis à ça de fonctionner.
Dans vos travaux, Quentin Gervasoni, vous avez cherché à comprendre comment certaines personnes restent fans de cette franchise culturelle initialement destinée aux enfants, même une fois qu'ils sont adultes. La Pokémon Company, est-ce qu'elle a mis en œuvre certaines stratégies pour adapter la franchise et continuer de séduire un public devenu adulte ?
Alors, en ce moment, c'est un peu en train de changer, et puis il y a quelques petites choses par moment, mais en fait, ce qui est, je trouve, assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas eu un effort extrêmement marqué de la part de la franchise, et que pour moi, l'essentiel de ce qui s'est passé, c'est surtout que les fans se sont appropriés la franchise d'une manière qu'ils ont essayé de transformer pour la rendre adulte, mais ils sont aussi beaucoup plaints du fait que Pokémon Company ne faisait pas assez d'efforts, selon eux, pour rendre la franchise d'adulte. Les jeux restent très enfantins, Donc au fond, voilà, c'est pas si marqué que ça.
Comment est-ce qu'ils se sont réappropriés la franchise, les adultes ?
Alors du coup, par exemple, en créant des jeux plus difficiles, en trouvant des manières différentes de jouer au jeu, éventuellement en saisissant des possibilités de compétition qu'offraient les jeux, en développant des manières de collectionner les cartes qui étaient plus, on va dire, personnalisées, avec aussi maintenant des formes de valorisation financière, sans aller jusqu'aux ventes à 16 millions, mais juste le fait d'avoir un marché vraiment développé de ça... Plein de choses comme ça en fait, et en créant des communautés adultes au final autour de ça, et en créant des modes d'attachement adultes.
16 millions de dollars, hein, c'est le prix d'une carte Pokémon qui a été vendue. C'était un montant record il y a quelques semaines. Les fans eux-mêmes, donc, si je comprends bien, Quentin Gervasoni, ils ont un rôle dans l'évolution de Pokémon.
Oui, assez clairement, parce que déjà, par exemple, sur Internet notamment, c'est très marqué, c'est que la communication de Pokémon Company sur Internet est arrivée très tardivement. Ils ont commencé à publier, par exemple, sur leur chaîne YouTube en 2013. La communication était assez limitée sur les réseaux sociaux. Et par contre, les fans avaient des sites d'information très développés, avec une curation de l'information, etc., qui, pour le coup, était à destination des adultes. Donc voilà, je pense qu'il y a, de manière très claire, oui, un rôle des fans acteurs presque commerciaux de Pokémon.
Et ces nouvelles consommations des adultes, elles représentent forcément une opportunité économique pour la franchise Pokémon ?
Alors oui, c'est clair. Après, c'est difficile d'avoir des données vraiment chiffrées, parce que Pokémon Company n'est pas très ouvert là-dessus. Mais c'est assez évident. Moi, pour moi, il y a plusieurs manières. Déjà, c'est qu'effectivement, ce que je voyais pendant mon enquête, c'est que les adultes ont tendance à dépenser souvent en moyenne 100 euros par an minimum. Donc, ça fait en fait des personnes qui restent très longtemps attachées et qui continuent d'acheter sur la durée. Mais en plus de ça, il y a le fait qu'aujourd'hui, les parents, c'est aussi eux qui vont acheter les jeux à leurs enfants. Et donc à ce niveau-là aussi, il y a clairement une opportunité commerciale. Et puis il y a aussi évidemment l'explosion des ventes de cartes de Pokémon ces dernières années, qui pour le coup, je pense, s'explique plus par les achats adultes que les achats enfants.
Merci Quentin Gervasoni pour votre analyse. En direct sur France Culture, vous êtes, je le rappelle, auteur d'une thèse intitulée « De la Pokémania au Pokémaniac, la captation des fans adultes de Pokémon ». Et merci à Aloïs Guérin pour la préparation de cette interview. Votre ciel, un temps nuageux, entrecoupé d'éclaircies avec même de la pluie sur une diagonale allant de Lille à La Rochelle. Des températures maximales en légère baisse, plus proches des normales de saison, mais qui restent douces. Elles vont de 12 à 18 degrés. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime restent en vigilance orange pour risque de crue. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nina Malray. À 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.